Roche-Beaubois dédie ce message à tous ceux que le design fait rêver. En ce moment, ce sont les 10 jours tentation. 10 jours pour découvrir la créativité des nouvelles collections et profiter de prix très séduisants sur une sélection de meubles et de canapés Roche-Beaubois. Mais ne perdez pas de temps. Les prix tentation Roche-Beaubois, c'est jusqu'au 20 mars seulement. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur rochebeaubois.com.
France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique.
En 1993, le pays d'ici revenait sur le naufrage de l'Amoco Cadiz, qui, en 1978, provoqua l'une des pires marées noires de l'histoire. 220 000 tonnes de pétrole brut déversées dans les eaux de la Manche, le littoral breton pollué sur 400 km. Quelques mois plus tard, les communes concernées s'unissaient pour mener la lutte sur le terrain juridique. 92 communes, dont la plupart des maires, faisaient le voyage vers Chicago pour venir défier sur ces terres la Standard Oil of Indiana, géant de l'industrie pétrolière. Au terme d'un combat de 14 années, la Standard Oil, devenue Amoco Corporation, fut jugée seule responsable de la catastrophe et condamnée à indemniser l'État français et les communes bretonnes sinistrées. En première ligne de cette bagarre interminable, on trouvait Alphonse Arzel, disparu en février 2014. Pour les gens de Ploudalmézo, j'étais Tintin aux Amériques, plaisantait cet ancien sénateur centriste, maire de Ploudalmézo pendant 40 ans. Mais c'est à une autre figure de la BD que l'associé Charles Josselin, ancien président socialiste du Conseil général des Côtes d'Armor, son compagnon d'armes contre la Standard Oil, Alphonse n'était pas Tintin, mais Astérix, rectifiait-il. Le pays d'ici, Ploudalmézo, la bataille contre l'Amérique.
Jean Edernalier est réapparu cette nuit à Paris, vous le savez, après 8 jours de détention sur lesquels les enquêteurs espèrent avoir tous les détails. Il reste bien des points d'ombre sur l'enlèvement de l'écrivain. Nous y revenons dans un instant. Et puis l'ouverture dans quelques heures, compte tenu du décalage horaire à Chicago, aux États-Unis, du procès de l'Amoco Cadiz en présence d'une soixantaine d'élus français. Jean-Luc Hess est à Chicago pour suivre ce procès.
Les avocats des 76 communes des Côtes du Nord et du Finistère sinistrées après la catastrophe de l'Amoco Cadiz sont optimistes. Certes, ils auront affaire tout au long du procès qui s'ouvre aujourd'hui à très fortes parties. Les sociétés américaines, libériennes et espagnoles...
Les pollueurs seront les payeurs, les communes bretonnes victimes de la marée noire de l'Amoco Cadiz seront indemnisées. Même si la procédure n'est pas terminée, c'est un arrêt très important qu'a rendu le juge de Chicago. Ce dernier ne s'est pas arrêté au pavillon de complaisance libérien, mais a condamné le véritable propriétaire du pétrolier, ainsi que la Standard Oil of Indiana, la 8e compagnie pétrolière américaine. Ce n'est qu'à partir du 31 mai prochain que l'on décidera du montant des indemnités, mais d'ores et déjà, il faut savoir ce que l'on va faire de cet argent. Écoutez à ce propos Jules Leven, l'ancien adjoint au maire de Port-Sal, l'une des principales communes bretonnes touchées par la marée noire.
Pour moi, c'est une joie profonde de voir que, pour une fois, les choses sont claires. C'est-à-dire que ce sont les pollueurs qui sont rendus responsables de ce qu'ils ont fait. Donc, c'est un succès et je crois que ce fera jurisprudence et que, par conséquent, lorsqu'il y aura, s'il y en a encore, parce que je ne souhaite pas des catastrophes semblables, on se référera à ce jugement. Il faudrait savoir ce que le juge Macquart va prendre en compte. Est-ce qu'il va prendre uniquement ce
Bonjour, Amoco numéro 2, toujours en direct et toujours en public de la mairie de Ploudalmézo. Nous l'avons vu hier, au cours d'une première émission, les côtes du Finistère et des côtes d'Armor vont, dès l'été 1978, quelques mois après l'horrible marée noire, retrouver leur aspect normal. Mais le préjudice est énorme, à la fois pour les professionnels de la mer et pour ceux du tourisme. Alors va commencer l'incroyable feuilleton juridique avec la législation américaine. Et les maires des 92 communes sinistrées ont tous fait le voyage en Amérique. L'entêtement breton, tous ou presque, l'entêtement breton a eu gain de cause après 14 ans de procédure, 1,45 milliard de francs versés à l'État français et 230 millions aux Bretons. Mais l'amertume est grande chez certains pêcheurs et chez les ostréiculteurs, médiocrement indemnisés. 5 millions de francs pour 1000 dossiers. Avec nous pour parler de ce procès, un procès unique, et bien trois des acteurs principaux, au moins deux des acteurs principaux de ce procès, Alphonse Arzel, qui est sénateur-maire de Ploudalmézo, Louis Dautria, qui est journaliste au Télégramme de Brest et qui a suivi tous ces dossiers, et Jean-Baptiste Henry, qui à l'époque était chercheur à l'INRA et qui depuis d'ailleurs est devenu le permanent, je crois, du syndicat mix de protection de la nature du littoral nord-ouest de la Bretagne. Alors, monsieur le maire, est-ce qu'on peut parler d'un procès unique dont vous avez été d'ailleurs un des initiateurs, un acteur absolument infatigable et qui a mis face à face donc les maires des communes sinistrées, dont certains n'avaient jamais pris l'avion, ça c'est pour la petite histoire, et la Standard Oil, qui est une des plus grandes compagnies pétrolières dans le monde. Comment s'est passée la rencontre? Est-ce que c'est vraiment deux mondes qui s'ignoraient parfaitement?
Ah, tout à fait. On ne savait pas d'ailleurs, quand on lançait cette procédure, vers quoi on se dirigeait. Nous ne pensions jamais que ce serait quelque chose d'aussi dur, d'aussi long, et on a dû déployer beaucoup d'énergie pour permettre de tenir en haleine tous les acteurs de cette longue procédure. C'est vrai que la première fois où je suis arrivé à New York, puisque nos avocats étaient basés à New York, c'était un mois d'août avec une chaleur torride. On quittait un pays comme le nôtre qui est quand même un climat tempéré et on avait l'impression d'être écrasé, pas simplement par la chaleur, mais par la hauteur de tous ces buildings que nous avons découverts en arrivant à New York. Puis ça a été aussi un choc moins grand quand même avec les discussions que nous avons eues avec les avocats américains, puisqu'on les connaissait certains d'entre eux, mais pas tous. Et moi, personnellement, j'étais très impressionné de voir la façon dont travaillaient ces hommes. J'ai découvert là qu'on avait à notre disposition quand même des hommes capables, qui semblaient compétents, et ça nous a un peu remonté le moral.
Alphonse Arzel, vous avez fait combien de fois le voyage en Amérique?
Je crois que 14 fois. Mais je ne suis pas allé chaque fois à New York, parfois on est allé directement à Chicago, plusieurs fois d'ailleurs, mais on avait pris l'habitude, quand on se déplaçait finalement, de faire les trois villes. New York, parce qu'il y avait nos avocats qui avaient leur siège là, Chicago, où se déroulait la procédure, et puis on faisait le crochet par Washington pour aller saluer l'ambassadeur.
Alors très rapidement, puisque le procès est maintenant terminé, oui, et que la page est tournée, est-ce que vous pouvez nous dire combien a coûté ce procès?
Combien il a coûté pour nous, victimes des côtes bretonnes? Si on y ajoute les intérêts de l'argent emprunté, nous sommes à 135 millions de francs, 13 milliards et demi de centimes. Voilà quel est le coût du procès. Nous avons versé 72 millions aux avocats américains, nous en avons versé plus de 7 millions à notre avocat français, plus les frais et les frais. Nous avons également payé beaucoup de professeurs de droit qui nous ont apporté leur concours dans cette affaire. Et je disais aussi qu'il y a eu les frais de fonctionnement de notre structure. Et enfin, comme nous n'avions pas d'argent, nous empruntions et nous avons dû payer des intérêts qui, à l'époque, étaient encore plus élevés que ceux que nous payons aujourd'hui en tout. Quand on fait le total, nous arrivons à 135 millions de frais.
Monsieur Arzel, qui a payé?
Nous,
cet argent,
la population bretonne, c'est-à-dire les victimes des 92 communes, ainsi que le département du Finistère et surtout le département des Côtes d'Armor, nous avons apporté cet argent en faisant appel à des prêts que nous remboursions en fixant le prix, un prix par habitant de chaque commune sinistrée.
À peu près 9 francs par an pendant un petit moment, Louis Dautria.
Ça a été plus loin que ça, oui. On a été jusqu'à 15 francs par habitant, après avoir démarré à 1 franc, nous sommes arrivés à 15 francs à la fin du procès.
Précision du journaliste du Télégramme de Brest, Louis Dautria.
Oui, sur le coût du procès et la facture acquittée, je voudrais dire quand même, parce que c'est juste de ne pas les oublier, que d'autres collectivités non victimes de la marée noire, les grandes villes de Bretagne, Saint-Brieuc, Brest, Morlaix par exemple, ont aussi cotisé au syndicat mixte pour apporter leur contribution au financement du procès.
Mmh.
Paul Burel, vous avez fait le voyage à Chicago avec les Bretons?
Oui. Effectivement, c'est peut-être ce dont je me souviens le plus, c'est le voyage des élus bretons à Chicago, avec une petite escale à New York. Avec plein de péripéties, d'épiphénomènes, enfin de... D'abord, d'ailleurs, si vous voulez, l'escale à New York, et en particulier la visite de l'ONU. Alphonse Arzel, le président du syndicat de défense des intérêts bretons dans l'affaire, avait programmé une visite à l'ONU pour sa délégation. Et je ne sais pas s'il avait essayé de faire croire ou pas, mais toujours est-il que la délégation croyait que c'était une entrevue officielle à l'ONU, escalité. Et donc certains avaient déjà sorti leur écharpe tricolore.
Ils se berçaient d'illusions, là.
Ils se berçaient de quelques illusions, puisque...
Naïfs, les Bretons.
Oui, en l'occurrence, puisqu'à l'entrée, tout d'un coup, ils se sont rendus compte qu'ils étaient pris entre un quart de visiteurs canadiens, un quart de visiteurs turcs, ou je ne sais quoi. Ils étaient pris pour des touristes. Et en plus, on leur réclamait $3 par tête de pipe. Alors là, je me souviens de la tête de quelques-uns dans la délégation. Ils étaient fous, furieux. Et Alphonse Arzel, qui a du savoir-faire, avait quand même négocié, il y avait des tractations. Et finalement, le résultat des courses, c'est qu'ils n'avaient pas payé $3, ils avaient payé $1.75. Et l'homme qui était à l'entrée, qui avait négocié, en rigolant, leur avait dit « Je vous fais le tarif étudiant ». Alors ça, évidemment, on s'en souvient.
Alors est-ce que l'opinion publique américaine... avait entendu parler de ce qui s'était passé sur les côtes françaises?
Apparemment non, parce que quand on était arrivé à Chicago, donc début mai 82, en regardant les journaux de Chicago, on se rendait compte quand même qu'il y avait un décalage, pour ne pas dire un océan, entre ce qui se passait à Port-Salle et ce que recevait l'opinion américaine. En l'occurrence, je me souviens que le Chicago Sun-Times, le jour même du procès, avait 5 ou 10 lignes de compte rendu à la page 76. Alors, c'est vous dire un peu le décalage qu'il y avait. Et en plus, quand les Bretons avaient défilé dans les rues de Chicago, puisqu'ils avaient descendu l'avenue Michigan, alors là, donc avec les écharpes tricolores en bandoulière, il y avait d'ailleurs le secrétaire d'État à la mer d'aujourd'hui, Charles Josselin. On peut pas dire que les gens de Chicago, vous voyez très bien de quoi il en retournait. Le plus souvent, d'ailleurs, les Bretons étaient pris pour des Hollandais qui allaient à la foire internationale du moment. Il y a eu une confusion sur les couleurs. Puis
on les a pris pour des marchands de fromage, c'est ça?
Marchands de fromage, ça, je ne sais pas. Je n'irai pas jusque-là.
Et même mais pas de fromage français, de fromage hollandais.
C'est extraordinaire, ce décalage, cette petite manifestation dans la grande avenue de Michigan, escortée par un seul policier sur une superbe Harley Davidson à trois roues. Il y avait un côté surréaliste, il faut bien le reconnaître.
Et vous pensiez-vous que c'était perdu quand
vous
avez
vu
ça? Non, pas du
tout. Non, dès qu'on a vu le juge McGard, dès la première audience, on s'est rendu compte quand même que bon... Même s'il y avait une indifférence totale de l'opinion américaine, il y avait un juge, une justice qui était quand même à la hauteur de l'événement. Ce qui avait été frappant au début de ce procès, en fait, c'est que les Bretons étaient quand même très intimidés. Le procès se passait au 27e étage d'une tour. Vous imaginez, c'est pas Port-Salle, hein, c'est même pas Brest. Et c'était dans une grande salle boisée, avec un seul juge en face d'eux, imperturbable, parlant une langue qu'ils ne comprenaient pas pour la plupart. Donc, ils étaient vraiment dans leurs petits souliers. Mais je crois que d'emblée, ce qui les avait frappés, c'est que ce juge était très pointilleux. Il posait des questions dans tous les coins. Et même les gens se demandaient, mais pourquoi il pose telle question? Il demandait, l'un des premiers intervenants, des premiers témoins, c'était de Radio Conquête, mais est-ce que votre fenêtre était ouverte? Alors, les gens se demandaient, mais pourquoi il pose ce genre de questions? Mais c'est fou. Et donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait une justice vraiment qui était très pointilliste, pointilleuse et qui rentrait vraiment dans le détail. Qu'on ne connaissait pas en France.
Ça explique le feuilleton juridique qui a duré 14 ans.
Oui, tout à fait. Ça explique que le feuilleton ait pu durer aussi longtemps, parce que la démarche de la justice américaine, effectivement, elle prend son temps, elle donne du temps au temps.
Et vous diriez aujourd'hui que les Bretons ont gagné, malgré la déception, l'amertume de certains?
Ah oui, moi je crois que les Bretons ont gagné. Oui, là, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Je crois qu'ils ont eu raison d'y aller. Et finalement, bon, ils n'ont peut-être pas gagné au sens capitalistique du terme, ils n'ont pas fait fortune avec cette affaire-là, mais ce n'était pas le but de la manœuvre dès le départ. Je crois qu'Alphonse Arzel et ses amis avaient bien dit « on veut gagner pour le principe ». Et je crois que sur le principe, c'est clair qu'ils ont gagné, même si aujourd'hui, on se rend compte que bon, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Mais s'il n'y avait pas eu ce procès, je crois qu'il est évident que les pétroliers seraient encore... pourrait faire encore beaucoup plus de folie et ne pas être sanctionné.
Going to Chicago. Sorry, but I can't take you. Going to Chicago. Sorry, I can't take you. There's nothing in Chicago a monkey woman like you can do. If you see me coming, hush your window. If you see me coming, hush your window. If you see me leaving, hang your head and cry.
Monsieur le maire, est-ce qu'il est vrai que c'est votre ami Jean-Baptiste Henry qui vous a fait découvrir le jazz américain, justement, dans
Oui, c'est exact, parce que dans nos moments de détente, on voulait connaître un peu la façon de vivre des habitants de cette grande ville, et j'avoue avoir été très impressionné d'avoir assisté à des séances de blues, et où je me laissais entraîner avec tout le monde, parce que c'était impossible de ne pas rester sans réagir. Je trouvais ça, finalement, sympathique, mais il y avait une telle chaleur là-dedans qu'au bout d'une heure, je dis à Jean-Baptiste, je veux prendre le bon air à l'extérieur. Partons.
C'est-à-dire alors que l'air de la mer vous manquait un peu.
Ah oui.
Alors le premier témoin de notre émission était Paul Burel, qui à l'époque était journaliste à Brest, que nous avons d'ailleurs entendu dans l'émission d'hier. Vous vous souvenez du souvenir, enfin de ce qu'il rapporte dans son propos,
oui,
c'est-à-dire du jour où vous avez tenté de faire passer les maires de Breton pour des étudiants?
C'est-à-dire que comme je voyais qu'ils hésitaient à payer le coût de la visite des bâtiments de l'ONU, eh bien, parce que nous étions rationnés en devises. C'était une période difficile et chacun voulait être quand même assez économe et donner $3 pour aller visiter l'ONU, alors que moi j'avais laissé entendre qu'on visitait sans payer. C'est vrai, je dis bon, j'ai parlementé, je dis vous pourriez leur faire le tarif étudiant. Et ça a marché.
Louis Dautria, oui, Jean-Baptiste Henry.
Oui, je peux ajouter quelque chose, c'est qu'il a parlé de l'ONU. Effectivement, et la première fois, on a été reçu sous cette forme-là. Mais ensuite, figurez-vous qu'on a été assez culotté pour y retourner en douce une seconde fois. Et quand je dis en douce, c'est introduit subrepticement, parce qu'on voulait faire une manifestation à l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale maritime qui se tenait juste à ce moment-là. Et effectivement, on a réussi à entrer un petit groupe au cours de l'Assemblée générale. On avait nos pancartes. On avait des petits papillons qu'on avait confectionnés à la hâte. Et au dernier moment, un représentant du ministère de la mer français est venu nous dire « Mais n'allez pas semer le bordel dans cette assemblée générale de l'ONU. Enfin, qu'est-ce que vous vous rendez pas compte, etc. » Vous voyez jusqu'où on allait et quelle était notre détermination à l'époque.
Louis Dautria, vous êtes journaliste au Télégramme de Brest. Vous avez suivi le procès. Je pense que c'est un thème sur lequel vous avez longtemps mobilisé les lecteurs de votre journal.
On les a mobilisés du jour de la marée noire, le jour du naufrage, jusqu'à la conclusion du procès. Et samedi encore, dans le Télégramme de Brest, vous aviez un article qui rendait compte de la dernière assemblée générale du syndicat mixte et des quelques difficultés que le syndicat mixte a résoudre avec certains de ses partenaires, notamment de ses conseils. Je crois qu'on aura l'occasion d'en parler au cours de l'émission.
Alors, j'ai
15 ans pour un événement, excusez-moi d'en terminer, pour un quotidien régional, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Je n'ose pas imaginer que ça puisse se reproduire de bientôt.
Alors j'ai feuilleté justement le télégramme de l'époque, donc du mois de mars 1978, et c'est vrai que l'événement revient à la une jusqu'au 6 avril de la même année.
Du jour du naufrage, oui, jusqu'au 6 avril.
Oui. Du 17 mars au 6 avril.
Je n'en suis pas étonné. Je sais que dans les premiers jours, sinon les premières semaines, on a travaillé à raison de plusieurs pages quotidiennes consacrées à l'événement. Et peu à peu, l'espace imparti dans le journal à cet événement s'est réduit. Mais je crois que 3 mois après, à l'intérieur du journal, on avait encore au moins une page entière expliquant quels étaient les moyens mis en œuvre pour continuer à nettoyer et les premières démarches des sinistrés pour faire reconnaître leurs droits.
Alors à Chicago, quand vous n'étiez pas dans l'enceinte du palais de justice où se déroulait le procès, j'imagine que vous avez lu les journaux américains. Alors quelle était la part réservée à l'événement dans les médias américains et quelle était l'attitude de vos confrères ?
Je ne peux que confirmer ce que disait Paul Burel tout à l'heure, à savoir que la première information que nous ayons vue lorsque nous étions en couverture de l'ouverture du procès à Chicago, c'était six lignes dans le fond d'un quotidien local de grande diffusion quand même, mais Chicago Sun News ou Tribune News, je ne me souviens plus du titre exact, mais c'était quelques lignes au fond, en fin de rubrique.
Un des personnages déterminants de ce procès a été l'avocat des Bretons. Il s'agit de maître Christian Huglot, que nous avons rencontré à Paris et qui nous a raconté dans quelles circonstances il était devenu l'avocat de la marée noire.
J'ai été appelé par la ville de Brest le matin même du vendredi qui a suivi la catastrophe. Je crois que la catastrophe est survenue de la nuit du jeudi au vendredi. J'ai été appelé par le cabinet du maire de Brest qui m'a dit « J'ai un pétrolier sur mes côtes, qu'est-ce que je fais ?» Je me souviens comme d'hier et il m'a dit « Ça s'appelle la Mococadis ». Moi, je ne savais même pas comment l'écrire à l'époque. J'ai pris immédiatement la disposition qui s'imposait en saisissant le tribunal administratif de Rennes dans la journée même une requête au fin de constat d'urgence pour faire descendre un expert sur chaque site pollué. Et après ça, je suis allé en Bretagne la semaine qui est suivie.
Et qu'est-ce que vous avez vu à ce moment-là ?
Oh, écoutez, enfin, je pense que c'était une immense désolation. On avait l'impression que c'était, un territoire occupé. L'impression de guerre, en quelque sorte. On voyait des militaires partout. Pour moi, la pollution comme ça, c'est l'atteinte à l'intégrité du territoire. Ça donnait cette impression d'un intense bouleversement.
Et vous avez eu tout de suite envie de défendre cette cause et de faire payer les pollueurs ?
Écoutez, je crois qu'on me l'a demandé. Je crois que c'est la première chose qui est très simple. J'étais appelé par la ville de Brest. À cause de l'affaire de la montée d'Issonne qui avait précédé. Et puis j'avais fait beaucoup de... j'avais suivi pour les Bretons beaucoup d'affaires de marée noire qui avaient précédé. Et vous aviez, avant la Mococadis 1978, vous aviez la catastrophe du Belen qui était en octobre 1976. C'est un pétrolier qui s'est échoué, plus exactement assombré au large de l'île de Saint. Et vous aviez l'Olympique Braverie qui s'était jeté sur l'île d'Ouessant en février 1976. Il en est issu un certain nombre de procès, d'ailleurs, qui n'ont pas abouti, mais qui ont abouti, d'ailleurs, à des indemnisations locales. Et la Bretagne avait déjà été agressée à plusieurs reprises.
Et vous avez douté au début de cette affaire ? Vous n'êtes pas dit que c'était un peu le pot de terre contre le pot de fer ?
Ben oui, mais enfin, vous savez, quand on commence un procès comme ça, d'abord, premièrement, on avait quand même le bon sens pour nous. Il faut quand même dire que c'était pas la Bretagne qui était rentrée dans la Moco, c'était la Moco qui était rentrée dans la Bretagne. Je veux dire par là que n'importe quel juge ne pouvait qu'être sensible déjà à l'ampleur de la catastrophe. Vous savez que c'était jugé par les Français comme la catastrophe la plus importante de l'année 78, l'événement le plus important de l'année. Ça a laissé des traces dans les mémoires. D'abord, on avait en quelque sorte la bonne foi de la victime, si vous voulez, qui cherche son juge. Même si le juge était difficile à trouver, c'était quand même une cause très importante. C'était peut-être le plus gros procès endommagé intérêt de la fin du siècle. Les enjeux étaient considérables, changer le droit international. On devait trouver un juge qui devait répondre à ça. C'était pas possible qu'il n'y ait pas de juge. Bon, le juge américain nous paraissait le juge adéquat, étant donné que c'était le juge de l'adversaire. Puis dans les différentes affaires de pollution, j'ai toujours attaqué. Quand vous doutez de quelque chose, vous attaquez d'abord chez l'adversaire. Puis, on a, par procédure d'expertise, de découverte, d'enquête, on a fini par découvrir la véritable cause du sinistre.
Mmh. Et quelle était-elle ?
La cause exacte de l'accident était surtout le mauvais entretien du navire. Nous avions eu des traces et l'intuition en voyant, grâce à la procédure de découverte, les factures de consommation de ce pétrolier. C'est-à-dire les factures de consommation d'huile d'entretien. C'est comme si vous disiez pour une voiture, je dépense pour faire Paris-Lyon 50 litres d'huile. Vous vous dites, c'est pas possible, vous roulez à l'huile où il y a une fuite d'huile. Ben, c'est exactement ça. Et nos experts maritimes ont estimé qu'il y avait soit un défaut de conception, soit un défaut d'entretien. Et en fait, il y avait les deux. Ce bateau perdait de l'huile tout le temps. Et je crois que la cause exacte de la catastrophe, c'est qu'il ramassait l'huile avec des seaux et le remettait dans la presse à hydraulique. Et un chiffon a bloqué l'ensemble. Et ça fait une explosion. Donc c'était relativement simple, mais aller prouver ça pour un bateau qui était au fond de l'eau, et que non, on n'avait pratiquement aucun document.
Est-ce que ce serait plus facile à plaider aujourd'hui?
Bon, le droit a fait beaucoup de progrès, incontestablement. Je crois que la question ne se pose plus, parce qu'il y a des conventions internationales. Les conventions internationales, heureusement, c'était quand même le succès de l'affaire Nabucco-Cadiz, c'était changer le droit. Il y a une nouvelle convention qui a été ratifiée et qui permet l'indemnisation. Pensez que, par exemple, dans l'affaire du Tagneau, qui est peu connue, qu'on a oublié en France, 7 mars 80, un pétrolier se casse en deux au large de la Bretagne. Il y a 16 000 tonnes de pétrole. Elles font du ravage, ces 16 000 tonnes, puisqu'elles polluent toute la côte nord de ce qu'on appelle maintenant les Côtes d'Armor. Bon. C'est quand même une marée noire très importante. Rappelez-vous que les Bretons sont venus manifester à Paris. Ils étaient sur la place de la Concorde. Ils sont venus manifester parce qu'ils en avaient marre. Bon. Ben, cette marée noire, c'est bien terminé au point de vue financier, si l'on ose dire, pour une pollution qui était, peut-être 4 ou 5 fois moindre que celle de la Mokokadi. Il y a eu quand même 550 millions de versés. Ça, vous n'en avez pas entendu parler. Mais c'est le résultat et c'est le fruit de l'affaire de la Mokokadi.
Jean-Baptiste Henry, vous qui avez suivi tous ces procès, que ce soit d'ailleurs en France ou dans la partie américaine, je crois qu'on peut dire quand même que ça a été la démonstration d'une très grande solidarité entre les élus de cette région, qui avait vraiment toute une région quand même qui était derrière cette affaire.
Oui, je crois qu'effectivement, c'est toute une région qui a réagi. Et c'est ça qui a fait la force, qui a permis de durer pendant plus de 14 ans. Le fait que tout le monde était d'accord. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de pot de terre contre pot de fer. Mais au départ, on ne se doutait pas qu'on avait affaire à un pot de fer. Et on ne savait pas qu'on était un pot de terre. Ça, c'est des idées qui viennent après. Nous, ce qu'on voyait au départ, c'est qu'on nous avait flanqué de la merde dans la gueule. Et qu'il fallait réagir. Parce que ce n'est pas beau de recevoir de la merde dans la gueule. Et on a voulu réagir parce que ça faisait plusieurs fois que c'était arrivé. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés tous ensemble. Et malgré la conjoncture politique, il faut le dire, on était en pleine période électorale, d'élections législatives en mars, comme on va l'être en mars prochain. Il y a eu peut-être quelques bémols selon les départements, mais quand même la très grande majorité des élus ont travaillé ensemble, quel que soit leur bord politique. Et c'est ça qui a été une des grandes forces du syndicat mixte et qui a fait qu'on est arrivé au bout.
Alors, vous avez eu à la fin de ce procès le soutien de l'État, c'est vrai, vous ne vous en cachez pas, mais au début, moi, il me semble quand même qu'en relisant la presse de l'époque, le ministère de l'Environnement, en la présence de Michel Dornano, était quelqu'un qui vous trouvait quand même très un peu fou de partir à l'attaque des États-Unis. Ça le dérangeait. C'était l'esprit de rébellion des Bretons qui était en cause, là.
Oui, je crois que ça allait encore beaucoup plus loin que ça. Monsieur Dornano n'avait pas accepté que des élus de petites communes comme les nôtres puissent se mettre ensemble et lancer une telle procédure. On a eu l'impression que c'était vraiment de l'ingérence et que, personnellement, j'ai appris à ce moment-là que l'État, c'est quand même le père de la patrie, je l'ai entendu combien et combien de fois, et c'était exact aussi que si, au départ, nous étions dans la légalité dans notre procédure, puisque le procès devait se dérouler en France et que les communes sont autorisées à les ester en justice, comme on dit, eh bien, à un moment donné, quand le procès a été transmis à New York et puis qui finalement s'est fixé à Chicago, eh bien, nous étions dans l'illégalité totale. Et je me rappelle de cet accueil par le Premier ministre de l'époque, Raymond Barre, qui nous le faisait sentir gentiment. Mais nous étions tellement remontés que quand il nous a posé la question de dire « Est-ce que vous allez vraiment continuer ou pas ?» ou « Est-ce que vraiment vous y tenez ?» On a été tous unanimes en disant « C'est une affaire qu'on a lancée. » On n'a jamais fait de procès jusque-là, on est décidé à y aller, et même si on est dans l'illégalité, eh bien, enlevez-nous de cette procédure, et vous entendrez parler du Breton. Alors, on l'a un peu affolé, il dit, bon, comment ? Alors, vous nous devez de l'argent, n'importe comment. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a reconnu devoir un crédit à l'État, parce qu'il avait donné une avance pour certains travaux, et on a signé, en tant que président, j'ai reconnu cette dette que nous avions à l'égard de l'État, et qu'on devait rembourser à la fin du procès, mais qui finalement nous a été laissé comme aide à la fin de notre procédure.
Jean-Baptiste Henry.
On peut dire qu'effectivement, dans cette affaire, au tout début, et même pendant la totalité de l'affaire, il y a eu deux adversaires quasiment. C'est-à-dire, au départ, on était aussi remonté contre l'État qu'on l'était contre les pollueurs. Parce que on ne connaissait pas à ce moment-là les circonstances exactes de l'échouement, quelles avaient été les causes réelles. On pensait que l'État n'avait pas accompli son rôle. On pensait aussi que le remorqueur, par exemple, n'avait pas non plus joué le rôle qui aurait dû être le sien. Donc, on est parti un peu en se disant, l'État est responsable. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait une réaction du local contre le national, qui était réelle, des Bretons contre le gouvernement, contre les gens de Paris. Et puis, il y avait en même temps une réaction des Bretons contre l'extérieur, qui était venu sous la forme d'un pétrolier chez eux, sur leur côte, et qui était américain essentiellement. Mais c'est peu à peu seulement qu'on l'a su, ça, que c'était des Américains, que c'était une grande société de Chicago. On ne le savait pas au départ. Tout ça s'est fait un peu progressivement. Il y a comme un immense puzzle et un immense mécano qui s'est mis en place. Et nous, ben, on a dû faire avec ça, peu à peu, et se transformer de pauvres élus locaux qu'on était, de petites communes séparées. Finalement, pratiquement, on est devenus presque des professionnels, peu à peu.
Louis de Tria, brièvement, jusqu'aux informations de 18h, vous avez été témoin aussi dans votre journal du conflit, de la situation conflictuelle entre les élus locaux et le pouvoir parisien, par exemple.
Je crois effectivement que cette affaire a éclaté de manière typiquement locale, parce que c'était une énorme tâche, mais elle n'éclaboussait que quelques petites, enfin, quelques 80, 90 communes bretonnes quand même, mais des petites communes. Mais je crois aussi que beaucoup plus vite que ne le disent Alphonse Arzel et Jean-Baptiste Henry, la dimension internationale de cette marée noire est apparue. Nous, en tout cas, nous, journalistes, observateurs, elle est apparue très vite. Et je me suis rendu compte que dès que cette dimension apparaissait, l'État français faisait en quelque sorte obstacle aux premières démarches engagées pour faire reconnaître leurs droits par les collectivités locales. Parce que dimension internationale, ça voulait dire ressort de l'État. Et l'État est très à cheval sur ce genre de prérogatives et n'appréciez pas que des petites collectivités entament des démarches internationales.
En direct et en public de la mairie de Ploumal-des-Eaux, Dalmézeau, oui, je savais que je me tromperais au moins une fois. La bataille juridique des Bretons contre la Mococadis, suite et fin, témoin suivant, l'avocat américain des Bretons, Peter Woolrich.
Une des choses qui nous a beaucoup frappé dans cette affaire, c'est que vraiment toute la Bretagne était derrière cette action, que ce soit toutes les partis politiques, les deux départements, toutes les communes, il y avait une unité que nous avons pu observer qui était remarquable et qui marchait toujours sans faille.
Comment est-ce que vous définiriez le caractère des Bretons après les avoir pratiqués pendant près de 14 ans ?
Ce sont des gens qui sont qui ont un très grand cœur, qui sont vraiment très profondément sympathique et profondément loyal. Et en plus, ce sont des gens qui ne se laissent pas faire. Disons que leur entêtement leur a permis de gagner cette affaire. Il n'y a pas de doute. Et c'était leur volonté, justement, d'aller jusqu'au bout et de ne pas être fléchis d'une manière ou d'une autre par les tactiques de l'adversaire.
Vous avez fait le voyage avec les Français ?
Oui, souvent. Tout à fait. Ah oui, très souvent. Et d'ailleurs, dans mes souvenirs, je n'oublierai jamais cette date au mois de mai. C'était le 4 mai 82, l'ouverture des audiences sur la responsabilité, justement, où les maires sont allés au tribunal pour écouter l'ouverture de la première audience de l'affaire. Et j'étais avec eux en marchant sur le Michigan Avenue à Chicago. Ils avaient leurs écharpes et on est allé au tribunal. Je pense qu'ils ont tous gardé un souvenir aussi inoubliable de l'affaire, parfois difficile, parce que là, on avait parlé de la phase responsabilité. Mais dans la phase sur l'évaluation des dommages, c'est les maires eux-mêmes qui ont été obligés de témoigner devant le juge avec la contre-examination de l'adversaire, qui était assez redoutable. Donc, ils ont été préparés et dans le sens qu'ils connaissaient bien leur dossier, ils connaissaient bien, ils ont bien étudié leur dossier avant de venir, et ils ont dû témoigner.
Est-ce que les Américains avaient déjà entendu parler de la Bretagne, du Finistère? Est-ce qu'ils savaient ce que c'était qu'un pêcheur, un marin pêcheur? Est-ce que les Américains savaient aussi ce que c'était qu'une pollution maritime?
Enfin, vous savez, c'est difficile de généraliser sur l'Américain, parce qu'il y a la côte Est, la côte Ouest, c'est tout un continent. Là, on se trouvait à Chicago, qui est un peu dans le centre-nord des États-Unis, mais il y a les Grands Lacs. Il y a eu des pollutions dans les Grands Lacs. Donc, bon, les gens savaient de quoi il s'agissait, certainement, mais c'était, il faut se souvenir, avant la pollution de l'Exxon Valdez.
Vous considérez-vous que le procès a été gagné, comme vous le souhaitiez?
Écoutez, sur la responsabilité, c'était une victoire à 100%. Sur les dommages, le montant des dommages, bon, là, on a eu, à mon avis, un résultat correct, mais j'avoue que j'aurais voulu un résultat plus important. Et malheureusement, je pense que si la décision sur les dommages est survenue après l'Exxon Valdez, le juge américain aurait mieux compris la solidité de nos demandes.
Vous voulez dire qu'aujourd'hui, ça serait plus facile à plaider, cette affaire?
Je pense, oui.
Bien en direct de Ploudalmézo, le pays d'ici numéro 2, nous parlons aujourd'hui du feuilleton de la bataille juridique des Français et des Bretons contre les Américains. Vous venez d'entendre, Monsieur Arzel, le témoignage de votre avocat américain, de Peter Woolrich. Alors j'aimerais que, à tour de rôle, tous les trois, vous me disiez ce qu'avait d'unique ce procès. Finalement, on pourrait peut-être vivre quelques-unes des grandes heures ou des minutes un peu longues que vous avez vécues là-bas.
Oui, je crois que autant nous avons eu des ambiances très fortes et très bonnes, autant aussi nous avons douté. Douté, pourquoi? Parce qu'entre chaque passage, il y avait un temps très long où on se demandait est-ce que vraiment on allait connaître la position du juge. Je me rappelle, entre le 4 mai, où on a démarré ce procès, ça s'est terminé à peu, presque un an après, et entre la période où les auditions étaient terminées et le rendu du jugement, eh bien, nous avons patienté, à tel point que je n'osais plus réunir les élus en assemblée générale parce que je n'avais rien à leur dire. Et je sentais cette ambiance d'attente qui était terrible pour nous.
Vous voulez dire les semaines les plus longues de votre vie?
Ah oui, ça a été terrible. Alors, autant il y a eu des choses qui nous ont fait ressouder l'ambiance. Par exemple, on parlait tout à l'heure de l'accident du Tagno, c'était terrible, bien sûr. Mais vous savez, ça a été un détonateur pour que le syndicat mixte, qui n'était pas encore créé, se mette en place. Parce que là, on sentait que les élus, tout d'un coup, découvraient que, finalement, on avait raison de continuer et d'être très mordant dans cette affaire. Bon, il y a eu aussi, il faut dire toute la vérité, il y a eu l'alternance. Il y a eu une nouvelle majorité qui s'est installée à la tête du pays. Eh bien, tout cela nous a apporté un plus, parce que ceux qui étaient dans l'opposition au moment du sinistre, et qui sont devenus un jour majoritaires, ils avaient tellement dit sur leur rôle que devait jouer l'État, que lorsqu'ils sont devenus responsables de l'État, ils ne pouvaient faire autrement que de suivre ce qu'ils avaient dit eux-mêmes. Et ça a été vrai, par exemple, c'est la première fois où nous avons eu un peu d'argent pour nous aider à payer les frais du procès. C'est sous le gouvernement de Pierre Mauroy que nous avons eu les premiers crédits qui nous ont quand même soulagés. Et puis, on avait au moins, on sentait qu'on n'était plus rejeté, qu'on a aussi passé des contrats avec l'État. Ça a été une phase intéressante pour nous, pour notre survie, peut-être beaucoup dire de dire survie, mais pour qu'on en reste confiant dans notre démarche.
Alors, je sais que chacun autour de cette table a été tellement impressionné par ce qu'il a vu aux États-Unis, parce qu'il a eu à vivre dans sa région, que vous pensez tous à des livres. On a parlé dans la presse de sagas juridiques, judiciaires. Alors, vous, Louis d'Autria, est-ce qu'il y a des moments où vous avez vraiment craint quand même pour vos compatriotes, quand vous les avez vus quand même dans leurs petits souliers, dans cette tour de 27 étages, ou au 27e étage de leur tour?
Je ne dirais pas que j'ai craint pour eux, mais il y a des moments où, plus que n'importe quel autre, j'ai ressenti l'émotion qui les habitait dans certains moments de ce procès. Je me souviens notamment de l'ouverture et des mots d'accueil du juge McGarr à la première audience du procès. Il était entré d'une manière extrêmement solennelle dans un tribunal où j'avais 70 maires connus de moi debout. Et puis McGarr les a accueillis en leur disant, je ne me souviens pas sa phrase exacte, mais il leur a dit, messieurs, merci d'être venus jusqu'ici, je suis sûr que vous serez contents de la justice américaine. Et je ne me trompe pas en rapportant aujourd'hui que j'ai vu des larmes couler sur certains visages ce jour-là.
Je reprendrai la balle au bon en disant que 6 ans plus tard, lorsqu'il a rendu son jugement en janvier 88, on peut dire que les Bretons n'étaient pas contents de la justice américaine. C'était la présentation du jugement sur les indemnisations. Et c'était la chute un peu brutale, go down, par rapport aux espérances qu'on avait. Et surtout par rapport à l'objectif presque principal qu'on avait. Parce que l'originalité de ce procès, vous en parliez tout à l'heure, c'était quoi pour nous? C'était essayer un peu de nous faire entendre en tant que riverains. C'est vrai que les États sont indemnisés en général, normalement, de leurs frais de nettoyage, déjà avant ce procès. Ils le sont, les conventions internationales le prévoient, mais l'indemnisation des riverains de leurs dommages, ça c'est quelque chose qui ne marchait pas, et qui malheureusement ne marche toujours pas, parce qu'on a perdu là-dessus notre procès.
Parce que c'est vrai que les Bretons ont gagné, c'est ce que disait Peter Woolrich, mais d'une certaine façon l'écologie a perdu, ou en tout cas cette écologie-là a perdu.
À la fois l'écologie, mais même les pertes touristiques, les pertes des marins-pêcheurs, tout ce qui est les pertes économiques, normales, même celles-là n'ont pas été reconnues comme elles auraient dû l'être.
Alors, on va en parler maintenant parce qu'on va peut-être mettre de côté l'émotion et les larmes du procès pour en revenir à la colère et à l'amertume de certains. Alors, l'émission de demain, vous savez, c'est sur les conséquences et sur l'après-marée noire. Mais j'aimerais comprendre qui a le plus souffert de cette marée noire, parce que même ici, autour de cette table, personne ne semble d'accord. Alors, je crois que c'est M. d'Autria qui dit que ce sont les hôteliers, et vous dites que ce sont les ostréiculteurs. Et vous aussi, vous dites que ce sont les hôteliers, non? C'est... Alors, qui a le plus souffert?
Les marins pêcheurs, d'abord. Parce qu'ils n'ont pas été reconnus, ils avaient préparé des dossiers, et puis, à notre grande surprise, le juge McGarr n'en a tenu compte d'aucune des demandes. Il y avait plus de 1000 dossiers de préparés, et puis il a tout rejeté, il a estimé que l'aide apportée par l'État, parce que l'État avait indemnisé un peu leur manque à gagner, les dons qu'on avait pu distribuer, bon, il estimait que les choses étaient revenues comme avant et qu'ils pouvaient aller plus loin, chercher la pêche qu'ils prenaient d'habitude plus près de la côte. Ça a été pour nous une surprise parce que psychologiquement, nous étions quand même plus près des marins pêcheurs et des goémoniers et tout ce qui sont les petits finalement de la mer. Ce sont eux qui, à nos yeux, ont été le plus touchés et qui ont souffert le plus d'avoir été rejetés, n'avoir pas été reconnus.
Alors, Louis d'Autria, vous dites, je rappelle, vous êtes journaliste au Télégramme de Brest, vous dites, ce sont les métiers du tourisme.
Oui, parce que je n'entends pas la question de la même façon.
Ils sont totalement déboutés.
Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que les marins pêcheurs ont été les premières victimes, les plus durement touchées parce qu'elles étaient touchés sur le site même de leur travail, et puis c'est leur outil de travail qui était perdu et leur activité qui était paralysée pendant longtemps. Ce que, quand je dis que le tourisme a été plus pénalisé, c'est en prix économique de pénalisation. Les marins pêcheurs, je ne dirais pas ne pèsent pas lourd, parce que ça serait pris de manière péjorative, mais je veux dire que leur poids économique n'est pas très très important dans cette côte-là de Bretagne. La pêche, elle est surtout importante dans le sud de Bretagne. En revanche, le tourisme, il a un poids économique, il représente des ressources annuelles qui sont formidables pour la côte nord bretonne, pour l'économie régionale en général. Et là, les préjudices économiques, et c'est là que je dis que ce secteur-là a été très touché, les préjudices économiques ont été très très lourds et ont duré longtemps.
Et pourquoi vous n'avez rien obtenu quand même pour... Pour les professionnels du tourisme.
Pourquoi? Parce que le système américain, il est très simpliste,
il finalement. Il rembourse sur facture.
Il aurait fallu amener des factures. Et ça, on ne le savait pas. On aurait dû collectionner le maximum de factures à l'époque.
Même de fausses, peut-être.
Oui.
Non, il n'y a pas eu de fausses factures.
Le tourisme, il faut reconnaître que c'est une industrie qui est très dispersée. Et que c'est toute la Bretagne qui avait été touchée en 78 et en partie en 79 par la désaffection touristique.
Mais c'est ce que vous dites. Vous vous dites que la grande victime, c'est finalement c'est la Bretagne. C'est l'image de marque de la
région. Au niveau économique, bien entendu, c'est cela. Oui. Des études ont été faites qui ont prouvé que c'était le tourisme qui avait subi la plus grosse perte. Mais comment faire pour représenter ces pertes en justice? C'était ça le gros problème. Parce que à ce moment-là, il y avait des milliers d'hôteliers, de commerçants et autres qui devaient se présenter, qui quelquefois étaient loin du lieu de naufrage, et ce n'était pas possible. Et les gens ne se sont pas sentis forcément concernés. Bref, donc très peu de gens se sont présentés, et même pour les gens qui se sont présentés devant la justice, c'est une très faible part de leurs pertes qui ont été acceptées.
Il faut se souvenir d'une chose, le pétrole était à Port-Salpe, Ploudalmézeau, Perros-Guirec, sur les côtes de la Manche, et les Allemands, futurs clients de l'été à venir en 1978, ils annulaient leur réservation à Quiberon, à Bénodet, côte atlantique, sud-bretonne. Tout le tourisme breton a été sinistré.
On dit aussi que les hôtels ont fait le plein avec les journalistes qui sont restés pendant un mois et demi sur les plages.
Il y a eu du monde, et nul ne peut contester qu'il est passé beaucoup de monde, mais il ne faisait que passer, et surtout le long des côtes. Mais comme on vient de le dire, c'est l'ensemble du tourisme breton qui a été pénalisé par cette situation.
Et quand vous demandiez tout à l'heure qui a souffert, moi je dirais que tout le monde a souffert. Oui. Parce qu'entre dommage et souffrance, c'est différent. Voilà. Moi j'ai réagi parce que j'ai souffert, et j'ai souffert, j'ai pas perdu un dommage, mais j'ai souffert.
Vous n'êtes ni pêcheur, ni hôtelier, vous étiez à l'époque chercheur.
J'ai souffert parce que je ne pouvais pas admettre qu'on salisse l'endroit que j'aime de cette façon.
Pierre Féat, vous êtes patron de pêche. Est-ce que vous faites partie des oubliés du procès contre les États-Unis?
Oh ben totalement, oui. Alors ça, les pêcheurs ont été complètement oubliés. Ils ont été déboutés. Déboutés, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, parce que je pense que c'est quand même eux qui ont le plus souffert de la marée noire. Les pêcheurs côtiers, je reviens là-dessus, parce que c'est pas... Il y a les goémoniers, il y a certainement les ostréiculteurs aussi, mais alors là, je dirais que c'est pas mon problème, parce que je ne connais pas leur métier suffisamment pour en parler.
Alors pourquoi dites-vous que les pêcheurs ont été à ce point oubliés, quand même, au moment des comptes de la Moukoukadis?
Parce qu'on voit ce qu'on nous propose actuellement. 5 millions de francs pour...
8 ou 900 pêcheurs, je crois.
Pour 1200 pêcheurs. Voilà, c'est ce qu'on a perdu. Encore, c'est ce que le gouvernement, dans son juste retour, veut bien nous allouer. Nous, on avait un dossier de 200 et quelques mille francs.
Oui, non, peut-être pas 200 000 francs, mais 160 000.
On va toucher 4 000 francs, peut-être.
C'est révoltant. C'est absolument révoltant, surtout quand on entend le battage médiatique, parce qu'effectivement, il y a des sommes très importantes qui sont arrivées en Bretagne, dont les communes bénéficient, ce dont on est ravis, bien que ce soit relativement peu, finalement, parce que là, je crois que la commune de Cléder a touché 4 millions de francs. Ce n'est pas beaucoup, bien sûr. Mais c'est vrai que les pêcheurs qui, eux, ont été vraiment touchés dans leur outil de travail, et qui ont dû mettre de leur poche véritablement pour pouvoir soit redémarrer leur métier dans de bonnes conditions. Bon, certains effectivement s'en sont bien sortis, mais grâce à leur trésorerie ou à celle de leurs parents. Il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas l'État vraiment qui a aidé, et en tout cas pas le procès certainement. Mais pour l'ensemble, je dirais c'est vraiment dérisoire, c'est grotesque. Et dire que les pêcheurs sont indemnisés, je trouve que ce n'est pas acceptable.
Est-ce que vous n'êtes pas responsable aussi de ce qui vous arrive?
Certainement. Je pense qu'effectivement, on est tous un peu responsables de ce qui nous arrive. Ils ont été mal défendus parce que le pêcheur n'était pas... Il devient maintenant, effectivement, mais il n'était pas un revendicatif. C'était un homme qui travaillait, qui allait en mer, qui affrontait les éléments, qui savait ce que c'était les choses vraies. Mais devant un juge, devant des avocats, il était complètement oui, c'est ça.
Je pense
désarmé,
que,
oui, il était.
Désarmé.
Et on... ça ne le concernait pas, ça ne le... Et c'est vrai que, bon, en plus, c'est vrai que c'était au début de l'imposition obligatoire des pêcheurs, et c'est vrai que certains pêcheurs n'avaient pas encore pris l'habitude de faire des déclarations d'impôts, et ce qui fait qu'on avait relativement peu de dossiers à présenter à ce moment-là.
Alphonse Arzel, vous venez d'entendre le témoignage d'un pêcheur et de sa femme qui l'aide dans son métier. Il s'agit de Pierre et de Bénédicte Féat. Et je crois que vous étiez d'accord avec comme ça cette description un peu littéraire qui fait de son métier en disant finalement le pêcheur c'est quelqu'un qu'on défend mal ou qu'on a mal défendu parce que c'est quelqu'un qui vit au gré du temps et qui est déjà victime de la mer, de la force du vent. Et c'est vrai qu'il avait, en tout cas à l'époque de la Mocadis, il était on le défendait mal. Parce qu'il y avait un statut qui n'était pas clair, quand même, de sa profession.
Oui, mais je crois, parce que le métier de pêcheur est très dur. C'est vrai, ils sont confrontés aux tempêtes, il y a beaucoup de risques. Mais pour avoir eu l'occasion d'échanger avec eux, au moment où j'étais responsable de la Chambre d'agriculture, j'aurais aimé à l'époque qu'il y ait une plus grande entente entre les paysans et les pêcheurs. Parce que c'est vrai, il a dit lui-même, on n'était pas agressif. Ils se laissaient un peu vivre et ne défendaient pas autant leur profession que les agriculteurs le faisaient. Alors, ils l'ont fait progressivement, mais j'avoue que c'est très difficile. C'est plus difficile pour eux de s'organiser que peut-être pour les agriculteurs qui ont les pieds par terre, tandis qu'eux, ils vont, ils viennent, leur domaine, c'est la mer. Et puis, je crois que cette ambiance fait qu'ils sont assez isolés, finalement. Tout en reconnaissant que, quand on parle de port de pêche, on dit souvent qu'une population autour d'un port de pêche est beaucoup plus généreuse que d'autres populations davantage à l'intérieur. Je crois que c'est vrai parce qu'ils ont des conditions de travail, des conditions de vie tellement risquées que la générosité est presque plus grande dans cette catégorie de personnes.
Louis Dautria, certains dénoncent ici le battage médiatique de la fin de ce procès en disant, bon, c'est vrai, on parle de l'argent, de la somme d'argent qui est tombée dans l'escarcelle des Bretons, mais il y a certaines professions qui ne se sont pas relevées quand même de ce qui leur est arrivé. Alors, est-ce que dans votre journal, on a rendu compte, est-ce qu'on a évoqué le témoignage justement de ce qu'on appelle aujourd'hui les oubliés de la MOCO ?
Régulièrement, oui, je pense. Moi, l'expression « battage médiatique », je l'ai entendue tout de suite dans le son qui est passé avant, parce qu'elle m'a écorché les oreilles et elle m'a presque insulté. Elle a insulté le journaliste que je suis, si vous voulez. Bon, moi, j'ai suivi avec conscience et honnêteté le développement de cet événement pendant 14 ans. J'en ai rendu compte avec la plus grande fidélité possible. Et je crois, du moins, je l'ai entendu dans la bouche d'élu, que la façon dont on a travaillé sur cet événement, nous, les journalistes de quotidiens régionaux, je précise, a été une espèce d'argument dans la bataille qu'ont livré nos élus au service de notre population régionale.
Alphonse Arzel, c'est une victoire, ce procès ?
Je crois que...
Ou est-ce que pourrait mieux faire ?
On aurait pu mieux faire, c'est sûr, mais c'est quand même une victoire, pourquoi ? Et Jean-Baptiste Henry l'a rappelé tout à l'heure, nous étions partis dans cette affaire pour deux raisons principales. Nous voulions... que toute la lumière soit faite sur les responsables de cette pollution. Et on voulait une fois pour toutes que ce soit public et qu'on connaisse tous les tenants et les aboutissants de cette catastrophe. C'était une première chose. On se battait pour ça et on voulait les condamner. Deuxièmement, nous n'étions pas partis pour essayer de ramasser beaucoup d'argent pour les victimes. Nous étions partis en disant, s'ils doivent payer cher, eh bien, ils feront attention à l'avenir. Pour nous, c'était un argument que l'on mettait en avant en disant plus ils seront imposés, plus ils auront à payer, plus ils feront attention à l'avenir. C'était pour nous une question pour, en ce qui concerne la prévention, parce que même aujourd'hui, il faut se battre pour la prévention, parce qu'un accident peut survenir demain, on aura encore de gros problèmes.
Alors c'est justement l'émission de demain à laquelle vous participerez, et on verra ensemble d'ailleurs ce que vous allez faire de l'argent. Je crois que vous avez des projets pour votre commune, on en parlera. Je voudrais donner la parole à Jean-Baptiste Henry, qui est un peu le théoricien quand même de cette affaire, hein, qui a tout abandonné.
Pour... C'est le cerveau de cette opération, je l'ai dit et je le redis, parce que s'il n'avait pas été là avec les élus disponibles comme il a été pendant 14 ans, je crois que vous auriez été présente à l'Assemblée Générale, on l'a dit, tout le monde l'a dit, il a été le ciment qui a permis que cette affaire aille jusqu'au bout, et je le redis une fois de plus. Nous lui devons beaucoup.
Vous avez démissionné, je crois, de vos fonctions pour
Non, au contraire, l'INRA, l'institut qui m'emploie, au contraire, a été très gentil, puisqu'il a permis que je puisse être mise à disposition du syndicat pendant ces longues années.
En conclusion, la morale de cette histoire?
Il y en a au moins une, c'est que on a démontré que ce n'était pas la fatalité qui avait causé cet accident, et je crois que c'était quand même un point essentiel. Et on a démontré, derrière le fait que ce n'était pas la fatalité, qu'au contraire, c'était le comportement criminel d'une société, et pas de n'importe quelle société, mais une grosse société ayant pignon sur rue, et qui, les minutes du procès le montrent impitoyablement. C'est l'avarice qui a créé l'avarie. Vraiment, Amoco s'est comporté comme... on l'apprend dans les manuels, si je peux dire, sur le comportement des sociétés capitalistes. C'est assez abominable quand on lit ce jugement. La deuxième chose qu'il faut tirer, je crois, c'est la force de l'émotion quand on veut faire quelque chose. Si on avait consulté un cabinet d'études ou de consultants pour nous dire « faut-il y aller ou faut-il pas y aller ?», je pense qu'ils nous auraient plutôt conseillé de ne pas y aller. Mais nous, on y était allés parce que on était un peu fous. On ne savait pas où on allait, mais on en voulait. Et on a gagné à cause de ça.
Monsieur Arzel-Henri encore, à l'idée de sa folie qui a duré 14 ans.
J'ai trouvé sublime ce qu'a déclaré Jean-Baptiste, parce qu'il a dit ceci lors de notre Assemblée générale extraordinaire. On ne serait jamais allé aussi loin si on avait su où on allait. On va toujours beaucoup plus loin quand on ne sait pas où on va. Et c'est vrai qu'on est parti, on n'a jamais essayé de savoir quand est-ce que ça allait terminer, mais on avait une détermination, c'est d'aller jusqu'au bout. Et on est allé jusqu'au bout, et ça a duré plus de 14 ans.
Sur nos rives bleues comme la paix, la vague noire a déferlé dans l'eau pure de vos baies. D'un seul coup, au petit jour, un enfant est né au rythme oublié des veuves marées.
Merci à vous trois de votre participation à ce Pays d'ici, Amoco numéro 2, demain Amoco numéro 3 ou l'après-marée noire, avec deux questions graves au moins. Quelle nouvelle réglementation de circulation pour les pétroliers et tout risque de marée noire est-il écarté? Équipe de réalisation, Guy de la Ville-Marquet, Gilbert Arnold, Marie-Ange Garando.
Le Pays d'ici, Ploudalmézo, la bataille contre l'Amérique. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 17 février 1993.